Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec la bande de critiques du Cap Ferret. J'ai nommé Sophie Avon de Sud-Ouest, le bien nommé, avec Xavier Le Herpeur de 7e Obsession, avec Eric Neuhoff du Figaro et avec Jean-Marc Lalanne des Inoccupables, puisqu'on parle ce soir du film de Guillaume Canet, Nous finirons ensemble, mais aussi de La Due à la nuit d'André Téchiné, d'Avengers, de Cœurs ennemis de James Kent, mais aussi de Mais vous êtes fou d'Audrey Diwan, de Victor et Célia de Pierre Jolivet et de Tremblement de Jairo Bustamante. Dans le courrier de la semaine, avis partagé sur Blanche-Neige, pour lequel le masque, notamment Jean-Marc Lalanne, a été si méchant. Elisabeth Merel a beaucoup aimé le film d'Anne Fontaine, acteurs impeccables, très bonne mise en scène. J'ai été emporté par le film et mon mari aussi. Nous sommes sortis heureux du cinéma, ce qui, par les temps qui courent, est assez rare. Arnaud Sanquer salut, et il a raison, un conte libertin porté par une loue de l'âge à croquer qui s'amuse et nous amuse et ne s'excuse pas d'être une femme désirable, ravie de retrouver Anne Fontaine libre et sensuelle. Pourquoi, demande Luc Widmayer, vouloir voir en ce film un plaidoyer d'actualité féministe? C'est juste un conte revisité, pas un plaidoyer, avec des acteurs et des décors exceptionnels. En revanche, il y a quelques Lalaniens comme Stéphane Ferrière qui dit qu'on est chez David Hamilton, ou encore Pierre Cuzor qui trouve le film cousu de fil blanc et grand guignolesque. J'ai une admiration énorme pour Isabelle Huppert, mais là il y a urgence, nous dit Pierre Cuzor, à lui rappeler que son jeu devient de plus en plus parodique. Dans certaines scènes, on pourrait croire un travesti qui singe la grande Isabelle Huppert. Plein de mails désobligeants pour la lutte des classes de Michel Leclerc, défendu pourtant au masque et la plume. Delphine Blanchard de La Roche-sur-Yon, comment avez-vous pu être aussi élogieux? C'est un nanar bourré de clichés, un pudding indigeste. Séverine Détête, les bras m'en tombent d'entendre vos éloges de la lutte des classes. C'est un film réactionnaire et je pèse le mot. Les banlieusards qui cultivent du bio sont forcément des neuneux et les convictions sociopolitiques s'arrêtent où commence l'intérêt économico-personnel. Zemmour va adorer.
Pas sûr.
Laetitia Novelli de Versailles fait une lecture tout à fait différente, lecture politique, hein. Les idéaux de gauche, nous dit-elle, sont magnifiques et j'y adhère pleinement. Les comédiens Leila Bekti et Edouard Baird sont très sympathiques, mais cela suffit-il à faire un bon film? Il aurait fallu plus de travail, d'information et de nuances. Quant à Didier Marx, il dénonce un nombre incalculable de clichés outranciers avec un scénario et un gâchis d'acteurs complet. Mon cher Masque, je ne t'en veux pas. Si on était toujours d'accord, le monde serait très triste. J'aime bien cette formule. Voilà. Sinon, à propos de Bertrand Blier, Arnaud Sanquer préconise la création d'un label EHPAD au cinéma qu'on remettrait au film de trop. Après, Lelouch et Pascal Thomas nous dit, cet auditeur, je le remettrai à Bertrand Blier. Qu'on voit exceptionnel, n'est qu'un buffet froid réchauffé. Jean-François Zekely, ce film n'est pas une comédie d'oublier. C'est un piège à con pour les acteurs, les spectateurs et les critiques du masque qui trouvent moyen de s'extasier sur une recette de poulet. Et enfin, à propos de Ma vie avec Jason Donovan de Xavier Dolan, qu'on va retrouver d'ailleurs à Cannes dans quelques semaines, avec un nouveau film. Eh bien, Stéphane Pajot nous écrit, cher Masque, comme je sais l'oreille attentive que te portent les plus hautes autorités culturelles et politiques de l'État, je souhaite par ton intermédiaire demander la promulgation d'une loi afin d'interdire purement et simplement les scènes où deux personnes courent l'une vers l'autre au ralenti, sous la pluie, avec Stand By Me en fond musical. Au choix, nous dit Stéphane Pajot, tout contrevenant devra remplacer la dite scène par Chaba d'Armon dansant la carioca, ou voir l'intégrale des Tuches façon Alex Delarge dans Orange Mécanique. Merci pour ton aide et ton entremise. Voilà, allez, on commence avec le retour des super-héros Marvel, comprenez, c'est Avengers Endgame, phase finale. Un film de Anthony et Joe Russo, de 22e, je crois, de la série, 10e et dernier de la phase 3, si vous me suivez, avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson. C'est d'ailleurs plus qu'un film, c'est un vent de folie. Les 5 premiers jours d'exploitation, le film a totalisé en France 3 millions de spectateurs. Je crois qu'on avait rarement vu ça. Dites-moi, pas trop longuement, s'il vous plaît, si ça vous a plu, Jean-Marc ?
Oui, beaucoup. Moi, j'étais pas un spectateur extrêmement attentif à la série, j'en ai raté certains. Et là, j'étais frappé par le fait que ça reste parfaitement lisible, même si on a raté plusieurs épisodes. Et ça réussit le prodige, à mon sens, de s'adresser vraiment à un public innombrable de fans extrêmement captifs qui décryptent tous les clins d'œil, tout en étant parfaitement compréhensible pour le néophyte qui découvre la série. Je trouve qu'il y a une puissance mythologique, une puissance de cinéma aussi qui m'a interloqué. Et il y a 3 grands mouvements dans le film. Et le deuxième, où ce dernier épisode relie les précédents et on voit les personnages aujourd'hui rentrer dans des scènes des précédents films, sans qu'on sache très bien ce qui a été retourné pour l'occasion ou qui est prélevé dans les films originaux qu'on voit sous un autre angle, comme si on les voyait en coulisses. Je trouve ça à la fois jubilatoire, très très drôle, extrêmement astucieux. Et le film a vraiment une vraie puissance, quoi. Il y a une capacité à écrire une mythologie contemporaine avec les outils de ce qui est en train de devenir le cinéma spectaculaire hollywoodien aujourd'hui qui m'a assez bluffé.
Sophie ?
Moi, au contraire de Jean-Marc, je suis plutôt, j'aime bien la série, j'aime bien Iron Man, j'ai bien aimé, j'ai pas eu tout réfractaire à ça. Là, j'ai calé. Parce que je trouve que j'aimais beaucoup la fin du précédent. Et je trouve que, en dehors de la première partie qui est formidable, parce que c'est du deuil, hein, c'est du deuil pur, c'est-à-dire qu'il se passe rien, ils sont hébétés, et ça, je trouve que les frères Russo le filment très très bien. La façon dont ils filment l'impuissance des super-héros, c'est génial. Ça dure quand même 1 heure, parce que le film dure 3 heures, donc ils prennent leur temps. Donc on a 1 heure de deuil, et c'est magnifique. Mais à partir du moment où ils trouvent le moyen de repartir en guerre contre Thanos, le méchant, et où, en s'en moquant eux-mêmes, parce que c'est une vieille recette hollywoodienne, on remonte le temps, et ça, c'est assumé, c'est très bien. On se régale, on se dit c'est génial, surtout que chacun a son espace-temps et que chacun va en effet chercher une pierre, donc chacun va se retrouver face à sa propre expérience en quelque sorte, et à soit son double, soit son père, soit sa mère, enfin bon, il y a toutes sortes comme ça d'espace-temps que chacun vit. C'est une réflexion sur la relativité du temps, et puis à un moment donné, il reboot tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de reconfiguration systématique du temps pour essayer de sauver la moitié de l'humanité qui a été sacrifiée, qui fait que pour moi c'est le pire héritage de la génération numérique. C'est-à-dire qu'à force de tout rebooter, on sait plus où on en est, on repart toujours de zéro et plus rien n'avait finalement existé. Je trouve que dans cette répétition de la reconfiguration de l'appareil, quoi, il y a plus d'humanité, il y a plus rien. Et je trouve que, contrairement à ce que dit Jean-Marc, il y a une force mythologique, il y a même de l'héroïque fantasy, mais à la fin, franchement, ils se battent pour des trucs, c'est ridicule, quoi, c'est un peu idiot. Moi, à la fin, j'en pouvais plus, ça dure 3 heures, je n'en pouvais plus à la fin.
C'est pour ça qu'Éric et moi, on n'a pas eu le temps encore de le voir, et puis le canef, c'est quand même deux.
Mon fils m'a dit que je n'y comprendrais rien.
Non, ça,
et il n'a pas
vrai.
Tort.
Ça, c'est pas vrai. Là, pour le coup, on comprend très bien.
Moi, je suis vraiment entre vous deux. C'est-à-dire que, comme Jean-Marc, je trouve le film extrêmement réussi sur le principe de la mythologie. On revisite les personnages. Et il y a un côté quand même... Marvel a toujours procédé de la même manière en réinventant les héros, en leur offrant un nouvel univers avec des univers parallèles. C'est ce qu'avait formidablement filmé Spider-Man Into the Reverse, qui était sorti au mois de décembre, où on jouait comme ça avec un personnage avec multiples identités et multiples facettes. Ils savent extrêmement bien faire. Ils savent très bien faire le deuil. Et c'est vrai que la première partie du film, elle est bouleversante. On avait fini le précédent Avengers sur la moitié de l'humanité, et donc la moitié des super-héros avaient disparu. C'était pas un immense suspense, hein. Il suffisait d'aller sur Internet pour s'apercevoir que c'était déjà au générique du prochain. Donc voilà, on savait bien que de toute façon, ils n'allaient pas disparaître très longtemps. Mais cette partie du deuil, qui effectivement est bouleversante, magnifique, sur le déni en même temps, sur la possibilité de se reconstruire, elle est magnifique. La deuxième partie, effectivement, où on traverse le temps, on se revisite soi-même, c'est absolument formidable. là, malheureusement, il pense depuis quelques films qu'il faut absolument une bataille finale extraordinaire, épique. C'est un déluge d'une laideur d'effets numériques. Mais alors, sans nom, on n'y comprend rien, parce que quand ils reviennent, c'est pour se foutre sur la gueule. Ça dure une heure. On voit rien. Les corps sont en train de se faire balancer comme ça par-dessus tête. Enfin, c'est irregardable, alors que la première partie, qui était si sobre, si belle, si mélancolique, nous avait dit, mais oui, on peut faire un film de super-héros, mais presque bergmanien, quoi. Enfin, en tout cas, quelque chose d'extrêmement contemplatif. Ça, tu l'as pas vu. Alors, ne fais pas de grimace.
Avengers bergmanien, ça, là, là.
Eh ben, il y avait quelque chose de ça qui, malheureusement, est sacrifié.
Et puis, le grandiose, pour le grandiose, pour le grandiose, c'est le XXL, XXL, et en haut, pousse encore les limites spectaculaires au bout d'un moment.
Oh là là, trop de grandiose, tu le grandiose.
C'est vraiment la fin, parce qu'il y a un contenu mélodramatique dans la plupart du film qui assez impressionnant.
Ouais, mais c'est ce qu'on a dit, mais malheureusement, mais le film n'avait pas besoin de cette fin qui ressemble à celle de Black Panther, qui ressemble à celle de tous les films à Marvel précédents. Quoi. Ouais.
Avengers, est-ce qu'il y a une réaction sur ce film? Non. Eh bien, on passe à la suite des petits mouchoirs, puisque presque 10 ans après, on retrouve donc la petite bande de Guillaume Canet, alors qui lui aussi avait fait quand même un beau score avec les petits mouchoirs, 5,5 millions d'entrées. Dans donc Nous finirons ensemble, la bande, c'est donc François Cluzet, Gilles Lelouch, boosté par le Triomphe du Grand Bain, Marion Cotillard, Madame Canet, Laurent Lafitte, qui la joue à un moment donné du film 13 Elephant Man, je vous en dis pas plus si vous l'avez pas vu, Benoît Magimel, désormais accompagné de son mec, qui est un vieux danseur de l'Opéra de Paris, Valérie Bonneton, plus en guest star, José Garcia, sans oublier évidemment votre ami le légendaire ostréiculteur Joël Dupuche. Tout ce petit monde débarque au Cap Ferret, dans la belle maison de Cluzet, alias Max, afin de faire un anniversaire surprise. Banque de peau, Max est en train de vendre la maison et il déprime. Tout le film, qui dure 2h15, consiste donc à l'empêcher de s'en séparer de sa maison, tout en reconstituant autour de lui et dans une belle villa voisine un groupe qui s'était fâché et avait volé en éclats. À la fin de la projo, tu riais beaucoup, Eric.
Oui, mais ça m'a rappelé un dessin de Brett Échier dans Les Frustrés, dans les années 70, dans Ton Journal, où on voyait un critique de cinéma mort de rire pendant toute une projection et sortir et dire « Quelle lourdeur !» Et là, c'est exactement ce qui s'est passé avec ce film.
La projection de presse où nous étions, c'est vrai, riait beaucoup.
Riait beaucoup, et tous les papiers sont
catastrophiques. Assassin, oui.
Cela dit, pour moi, c'est la Cerisay version 4x4. Là, la maison est à vendre et on retrouve tous les gens qui étaient dans le précédent.
Mais
la
Cerisay version 4x4.
Ouais. Ben oui, parce que
c'est mieux que le film du super-héros Bergman.
Ouais. Hein. on les avait un peu oubliés depuis 10 ans. Et ça se remet en place. On se dit, ah oui, celui-là, il était marié avec une telle. Celui-là, il a dit qu'il était homo, finalement. Et il y a deux pièces rapportées. Il y a une délicieuse brune là, qui s'appelle Clémentine Barthes, qui joue la nouvelle compagne de Cluzet.
Cluzet. Enfin, il y a un tout petit rôle. Hein.
Ah oui, mais elle est bien. Hein. Elle est bien.
Elle est patiente. Elle est très patiente.
Elle développe, elle est bien. Parce que...
Elle est jolie, elle est avenante, elle supporte Cluzet. Mais moi, j'aime bien voir des nouveaux visages comme ça. C'est fait pour ça, les actrices. C'est pas pour voir Isabelle Huppert pour la 100e fois. Voilà. Et le film a ses défauts, mais il est drôle. Et dans le premier, toutes les scènes étaient trop longues, fallait couper dans toutes les scènes. Là, il y en a deux qu'il faudrait couper, des jeux de société avec un post-it sur le front pour deviner quelle personne on est censé incarner. Ça, c'est un peu longuet. Et la fin... que je ne raconterai pas, ça aurait pu être un peu plus léger que ça. Mais sinon, il a compris ce qu'avait fait Yves Robert en son temps, avec Nous irons tous au paradis et Un éléphant, ça trompe. On retrouve ces personnages et c'est aussi un film sur l'âge. On les voit avec les cheveux un peu plus grisonnants, avec un petit peu de bedaine. On voit que certaines femmes ont touché du bistouri. Et il y a une espèce de tristesse et certains gags, moi qui m'ont beaucoup amusé...
Lesquels, par exemple?
Si, il y a un truc très drôle, c'est quand il saute en parachute un lendemain de cuite. Alors, sauter en parachute avec la gueule de bois.
Je crois que ce sont des vrais sauts de parachute. Parce
visiblement. Ouais. C'est un petit peu long, d'ailleurs, on les voit bien tomber. Et puis moi, les huîtres, le vin blanc, déjeuner chez Hortense.
La scène qui est drôle, moi, c'était le visage de Laurent Lafitte.
Non, mais ne le dis pas. D'ailleurs, il joue mieux comme ça.
C'est pas du suspense, ça.
Il joue mieux comme ça qu'au naturel, Lafitte. Si vous allez voir le film. Non, c'est un film très plaisant, pas prétentieux du tout. L'image est assez belle. Et ça, c'est pas un film qui se prend pour... du Bergman chez l'ostréiculteur.
Comment dire ? Alors ça a très bien démarré. Commençons par les choses objectives.
Hein. Les chiffres sont bons là.
Près de 370 000 entrées
derrière Avengers.
Pour le premier jour, derrière Avengers. Déjà il y a 10 ans, on se demandait pourquoi eux se retrouver et pourquoi nous, on était forcés d'y aller. 10 ans après, la question demeure. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent ? Ils se détestent. Et pourquoi est-ce qu'on y retourne, sachant qu'on avait détesté, enfin en tout cas ce qui me concerne, les petits mouchoirs ? Alors le scénario passe son temps à nous dire, mais on s'aime, ils s'adorent. Mais en même temps, à l'écran, ça ne se voit jamais. Ils se détestent, c'est de la perfidie, c'est de la méchanceté.
On n'est pas au masque.
Si c'est ça l'amitié, moi je suis content d'avoir aucun ami. Vraiment, je m'en félicite en tout cas.
Bon.
Si la définition de l'amitié c'est celle de Canet, excuse-moi, mais je préfère finir seul sur une île déserte.
On va passer une annonce.
C'est pas nous finirons ensemble, c'est nous finirons tout seul et bien contents de l'être. Enfin vraiment, il y a après que dire. Bon, c'est pas mon domaine de vie. Hein. Sociétalement, je fais pas partie de ce métier-là, de milieu-là. Je vais pas au Cap Ferré, je ne vais pas soigner ma dépression dans une maison que j'ai louée une fortune et qui a une superficie de 400 mètres carrés, jardin compris. Je n'ai pas ce luxe-là, donc malheureusement, je suis obligé de me recroqueviller sur ma vie médiocre pour savoir si je vais bien. C'est... Alors, les mecs sont tous des cons, mais je pense que la graduation, le summum du film, c'est les femmes. Elles sont toutes... définies par un mot, et elles n'en varieront pas du début jusqu'à la fin du film. Valérie Bonneton, c'est la colérique. Donc, voilà. C'est l'ensemble du
jeu. Divorce.
Elle refuse le divorce. Dieu merci, il y a des femmes qui ont quand même le divorce un petit peu plus calme, mais enfin bon. Il y a la babysitter, qui est la dictatoriale. Ouais, vous allez vous taire, ouais, les enfants veulent dormir. Alors évidemment, elle est un peu moche, un peu grosse, hein, parce qu'il faut que ça aille avec l'ensemble. Il faut
tu n'as jamais eu de babysitter.
Une définition. Bah écoute, je l'aurais peut-être mieux choisi quand même. Après, on a la nymphomane, c'est-à-dire une copine de Valérie Bonneton, on ne sait pas pourquoi. Elle arrive et dès qu'elle voit un mec, elle fait « Bonjour !» Et elle fait que ça. Alors, il y a une nuance.
Ça lui a vachement plu. Hein.
Pascal Arbillot, elle n'est pas nymphomane, mais elle est curieuse du cul parce qu'elle vient de divorcer. Alors elle dit « Oh, peut-être que oui, j'aurais dû quand même. »
Non, puis son mec est devenu
Mais la mieux, c'est Marion Cotillard. Parce qu'elle est définie par un seul et unique travers, elle est alcoolique. Avant, dans le précédent, elle allait à l'autre bout du monde, dans les tribus qu'on ne connaissait pas, enregistrer des bruits gutturaux qui étaient censés être l'héritage comme ça de vieux chants ancestraux. Là, maintenant, elle boit. Elle n'est pas très gentille avec son gamin, elle boit.
On peut pas dire qu'elle est alcoolique gentille. Dans le film, c'est pas
ça. Elle a son rôle. Elle biture, tout le temps. Mais il y a encore une graduation, c'est la nouvelle qui, visiblement, a trouvé grâce aux yeux et à l'entrejambe d'Éric Neuf. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et alors, elle est définie par un seul mot. Elle a un cancer. Voilà, c'est tout. Et ça nous vaut un moment, je suis désolé si je polie, mais la réplique la plus abjecte que j'ai entendue cette année, ils sont au restaurant, il y a le serveur qui arrive et qui dit c'est pour qui le crabe. Et Laurent Lafitte, en désignant la fille qui a un cancer, fait c'est pour elle. Eh ben voilà, je suis content de savoir qu'il n'y a que moi que ça ne fasse pas rire.
Sophie.
Oui, mais il dit ça parce qu'il est idiot. Parce que tu dis que les femmes sont toutes définies par un seul mot, mais les hommes aussi.
Lui, il est gratiné.
À quoi sert cette réplique?
Les hommes aussi sont idiots.
Mais
ils sont un peu
plus travaillés dans leur idiotie que les femmes, quand même.
Enfin, quand
même.
Il est travaillé dans son idiotie deux fois, c'est-à-dire qu'on lui dit de ne pas toucher un truc. Et les enfants, ils disent surtout, il ne faut pas toucher. Il n'a de cesse de toucher le truc. Alors, en effet, il se passe ce qui se passe. Donc, c'est quand même le degré zéro du portrait. Mais les autres ne sont pas plus intéressants. Les autres sont
C'est quand même un acteur qui a raté sa carrière, qui s'accroche à celle de Jules Lelouch. Ils ont quand même des nuances, alors que les femmes n'arrivent là qu'avec leur adjectif, leur épithète, pour essayer de bousculer ce jeu inintéressant de mecs entre eux. Quoi.
Honnêtement, je trouve que les personnages, en général, n'ont absolument aucun intérêt.
Ah ouais, mais je trouve ça déjà grave sur les femmes.
Ils sont complètement... Non, bah tu vois, là, pour le coup, je ne suis pas spécialement... Je n'ai pas fait de différence entre les deux. Je trouve que les personnages sont vains, sont creux, et plus ils sont creux, plus on a le sentiment que Guillaume Canet essaie de les remplir, et de les charger, de les outrer, et de les ridiculiser. Et c'est très curieux d'ailleurs la façon qu'il a presque de confondre l'ironie et la vulgarité, quoi. Il les charge tellement, il est une espèce de sadomasochisme qu'il se voyait dans Rock'n'Roll d'ailleurs, sauf qu'il l'appliquait à lui-même et c'était finalement très audacieux et assez drôle. Tandis que là, il est d'un sadomasochisme avec Marion Cotillard, dont il fait non seulement une alcoolique, mais une fille absolument désagréable et qu'il essaie de racheter à la fin, mais de manière tellement improbable que je préfère pas en parler, parce que les passes d'Arcachon je connais et pour le coup...
De toute manière, on va pas raconter la fin.
Non, mais c'est pas tout à fait la fin. Enfin, ce qui se passe est hautement improbable. Mais bon, passons. Mais il en fait surtout des pantins de ses personnages. C'est-à-dire qu'ils sont complètement vides, ce sont des marionnettes. Et comme le scénario n'est pas non plus d'une solidité absolue, ça se balade, ils sont un peu ridicules. Quand même, le personnage de Benoît Magimel avec son grand amour de vieux danseur, ils sont quand même pitoyables.
Il était hétéro à tendance gay, maintenant il est gay à tendance hétéro. Ben, tout va bien, je veux dire, le personnage ne peut plus aller nulle part, quoi.
Quel équilibre
Et cette façon de ridiculiser est quand même peu drôle.
Jean-Marc.
Oui, c'est étrange. C'est comme un film de misanthrope, mais dans misanthrope qui n'assumerait pas du tout et qui dissimule vraiment son aigreur, son amertume derrière une très grande mièvrerie. Donc, soit le film dégouline de bons sentiments, mais qui sont totalement faux et fabriqués, soit il y a une cruauté mesquine à l'égard des personnages qui sont réduits à l'état de punching ball, qui fait que le film est vraiment très déplaisant et qui ne retrouve jamais cette humanité qu'il y avait chez Yves Robert, ni cette fantaisie. C'est vraiment un film très, très rance et très vulgaire.
Et nous finirons ensemble le nouveau film de Guillaume Canet. J'ai reçu d'ailleurs, après ça c'est formidable quand même, le pouvoir de se filmer. Je pense que beaucoup de journalistes l'ont reçu. J'ai reçu ce message sur ma boîte mail ce mercredi. Le nouveau film de Guillaume Canet se passe au Cap Ferret. Ça je sais, je l'avais vu. Pour les thématiques sur le bassin d'Arcachon autour de la sortie de ce film, je vous propose la marque laboratoire du Cap Ferret. Des soins visage et corps de haute cosmétologie bio qui contiennent des actifs issus de la région. Et c'est signé Marine, il faut le faire quand même. Des réactions peut-être sur le film de Guillaume Canet dans le public. Oui, tout en haut du théâtre de l'Alliance française, un tout jeune auditeur apparemment. Bonsoir.
Bonsoir.
Une question, quel âge tu as ?
J'ai 13 ans. Donc j'ai vu le film hier. Et alors je l'ai trouvé très drôle, surtout Marion Cotillard dans son rôle. Mais en fait, j'étais gênée par le fait qu'il y avait une sorte de répétition. Ils enchaînaient les conneries, je vais dire. Mais enfin, oui, ils enchaînent justement les
bêtises,
conneries.
Les blagues.
Et donc ça me gênait parce que c'était vraiment très répétitif. Et j'ai trouvé aussi que les personnages étaient exagérés. Donc leur rôle les rendait stupides carrément des fois.
Merci pour ce jeune critique de 13 ans, c'est très bien, ça commence
tôt. La relève là, on va faire...
D'ici un an ou deux, il pourra rejoindre la tribune du masque. Pas d'autres réactions d'auditeurs plus âgés éventuellement, non? Personne.
Majeur.
Cœurs ennemis du britannique James Kent avec Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård. Ça se passe dans l'Allemagne, en ruine de 1946 à Hambourg, où le colonel Lewis Morgan, c'est Jason Clarke, fait partie des forces anglaises d'occupation et de reconstruction. Sa femme Rachel, c'est Keira Knightley, le rejoint et puis le couple habite la belle maison d'un architecte et d'un ancien officier nazi dont la femme est morte sous les bombardements. Alors comment est-ce que, et jusqu'où surtout ces cœurs ennemis vont-ils cohabiter? C'est tout le sujet de ce film dont l'image m'a paru encore plus brillante est propre que celle d'une voiture neuve. Ça dure 1h50 et 1h50 d'images aussi brillantes, j'ai eu du mal. Sophie.
Oui, j'ai eu du mal aussi. C'est un affreux pinsomme. Je ne sais pas comment elle lit. Je n'ai pas lu le livre. Hein, c'est adapté d'un bouquin.
Ah non, mais déjà, voir le film, c'est dur. Alors, si
non,
plus,
mais, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une inadéquation évidente entre la façon dont ce cinéaste arrive et adapte cette histoire qui est quand même très compliquée, où se croisent des drames et des mélodrames, où couvent les choses les plus terribles, ce couple qui, comme tu l'as
le propos est très, très sommaire. Pardon,
Oui, mais en 2 heures de temps, il est obligé de résoudre des fêlures et des failles passées qui font que tous ces éléments tragiques qui convergent au même point au moment où ça se passe, faut qu'ils se rejettent mutuellement. Je ne sais pas si je suis très claire. Je veux dire que la mise en scène étant inexistante et le point de vue assez peu personnel, il a aligné comme ça, il a expédié ça, là, va comme je te pousse. C'est un film qui est par tronçon, il n'y a aucune dramaturgie. Donc, l'histoire d'amour qui se noue entre cette jeune femme et l'architecte allemand, on se dit évidemment ça va arriver, et puis quand ça arrive finalement on n'y croit pas parce qu'il n'y a pas une once de sensualité ni de désir, enfin bref il ne se passe rien, on ne sent pas passer l'amour, on ne sent pas passer le désir, on ne sent pas passer la sensualité, on ne sent pas passer le temps. Il y a un vrai problème de dramaturgie et tout ce qui est révélé dans le film, puisqu'ils ont traversé bien des épreuves et c'est aussi un film sur la réparation d'un couple, il passe complètement à côté de ça. Enfin, c'est absolument pas émouvant. Bon, je ne peux pas m'acharner davantage sur le film, il est mauvais quoi.
Xavier.
Oh ben, c'est un vrai nanar tel qu'on... Non, mais tel qu'on apprécie de temps en temps de les voir, sauf que là, effectivement, il fait 1h50, ce qui est un petit peu au-delà du seuil de résistance, quand même. Bah ouais, surtout que c'est un nanar historique, comme l'a très bien expliqué Sophie, et comme Jérôme l'a précisé dans son contexte, qui effectivement va là où on l'attend, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver quand même.
Mais on y croit pas en même temps.
Le bel Olivier, officier nazi, est là.
T'as vu la gueule de...
Le problème, c'est que 1h50 avec Keira Knightley, quoi. C'est-à-dire que zéro expression du début jusqu'à la fin. Lui, c'est la seule comédienne capable de traverser 1h50 de film avec deux expressions. Et encore, je pense qu'il y en a une.
Mais il fait froid, hein, c'est pour ça.
Elle l'a demandé une prime. Et alors lui, c'est quand même génial. Ah non, mais c'est zéro. Elle a écarquillé les yeux un tout petit peu ou beaucoup. C'est tout. Et alors lui, Alexandre Skarsgård, qui puait le sexe dans True Blood. Non, mais il faut dire les choses.
Là,
il se mettait un tiers torse nu. C'était, on avait pour une demi-heure à s'en remettre. Là, on a dû lui dire... Tu fais sobre, tu es architecte, tu es nazi, donc tu es carré, n'est-ce pas? Quand tu joues au piano, avec elle, tu ne la regardes pas, parce qu'évidemment, on a le piano, hein, ça, évidemment, c'est toujours l'instrument de la réconciliation et la retrouvaille. On va se frôler le petit doigt, pof, pof, pas moison. Et alors là, il passe son temps à regarder ses bottes comme s'il avait oublié de les cirer.
Relisez le silence de la mère de Vercors, c'est autre chose.
Ah non, mais c'est, ils ont tout fait pour le désexualiser tellement elle est pas bonne à côté, de toute façon, pour que le couple puisse exister d'une certaine manière, avec une certaine forme de crédibilité. Mais on n'a pas le droit de faire ça, Alexander. Ça se garde, j'y arriverai pas du premier coup, qui est quand même un truc, même dans Tarzan, où il avait le pagne le plus petit de l'histoire du pagne, il était
ah
mieux.
Bon ah ouais, ça j'ai oublié.
Ah, c'était tout petit, le pagne de... Moi, j'ai pas oublié.
Est-ce qu'il y avait dedans aussi?
Mais alors là... Mais tu sais, quand à la fin du film, tu es en train de calculer en te disant « Mais comment elle est déjà là, alors que la gare est à 3 km et qu'en même temps, il y a de la neige, et que l'autre, il est venu en voiture, il arrive au même moment. Bah, tu te dis que non. Tu te dis que t'es pas rentré dans le film.
Vous avez vu ce que c'est que cette image? Encore une fois, j'y reviens beau. Moi, ça m'a obsédé. Elle brille, on a l'impression d'un sous neuf. C'est quelque chose
que... Ah, c'est bien nettoyé.
Voilà, très nettoyé. Eric.
Ouais, j'ai été un peu déçu.
T'espérais pire.
Non, je m'attendais à un nanar stratosphérique à cause de l'affiche, du générique, du titre, Cœurs ennemis, mais on n'a plus appelé.
Dit, peut-être.
Et c'est un bon gros mélo à l'ancienne, quoi. C'est... Oui, mais ça prétend pas autre chose. C'est un mélo rutilant, là, qui est repeint à neuf, tout a l'air de sortir de l'usine, même le scénario, d'ailleurs. Et Keira Knightley, bon, elle fait ce qu'elle fait d'habitude, donc
oui,
rien. Mais comme
ça.
Elle est jolie... Et qu'il y a un joli type.
Ben
oui, oui, mais enfin, voilà. Parce que le mari est quand même un solide bourrin, l'anglais. Et c'est une période qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir à l'écran, ça.
C'est la lecture psychologique.
La Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas l'habitude de la voir à l'écran. Mais t'étais où pendant les 50 dernières années?
Pas à Berlin. Non, mais il y en a assez de ce nazi bashing, en plus. C'est toujours leur faute. Non, c'est comme un dimanche soir où on est un peu fatigué, où on met des pantoufles, on s'installe et puis on regarde ça en s'attendant au pire. Du coup, on est agréablement surpris. Effectivement, la poursuite dans la neige, dans la forêt, si on compare à la même scène dans Le Conformiste, c'était mieux. Mais ça, c'est un film sans intérêt, mais pas honteux.
C'est donc Cœurs ennemis de James Kent. Des réactions peut-être sur ce film? Non. On passe à L'adieu à la nuit, très différent d'André Téchiné, avec Catherine Deneuve qui tourne avec lui son 8e film, Kassim Oteklin et Oulaya Amamra. Et dans ce film, Deneuve est Muriel, une femme forte, célibataire, qui a bon goût puisqu'elle dirige un centre équestre au milieu des champs de cerisiers en fleurs. Un rêve passe. Débarque alors son petit-fils, Alex, et Kassim Oteklin, le souffre-douleur, souvenez-vous de quand on a 17 ans, qu'elle adore, mais qui a beaucoup, beaucoup changé, puisque Alex s'est radicalisé. Il déroule même son tapis de prière sous les arbres, et s'il prétend partir pour le Canada, il compte en fait aller en Syrie avec celle qu'il va épouser, c'est Lila, et c'est donc Oulaya Amamra, la Dounia, qui était formidable dans Divine. Tout le film raconte comment la grand-mère va tenter d'empêcher son petit-fils de partir faire le djihad. Et le moins qu'on puisse dire est qu'elle emploie la méthode forte jusqu'à un épilogue que je vous demande de ne pas raconter, même si c'est un film qui est sans aucun préjugé ni leçon de morale. Jean-Marc, tu l'as vu celui-là?
Oui, je l'ai vu, oui. Je le trouve vraiment très beau. Je trouve qu'il y a quelque chose de bouleversant dans la capacité d'entendement humain du cinéma de André Téchiné. Il prend un personnage totalement...
Qui rencontre d'ailleurs, parenthèse, aussi un beau succès pour ce film.
Ouais, qui a très bien démarré.
Ce qui n'est pas toujours le cas des films de Téchiné.
Moi, ce qui me frappe chez lui, c'est à la fois le fait qu'il choisisse un personnage qui donne si peu de prise. Il y a très peu d'explications psychologiques sur les raisons de son choix idéologique. Et en même temps, il réussit simplement, en le regardant, en le filmant, à nous le rendre sensible, proche. Et il y a une foi dans la capacité de compréhension du cinéma, de faire vraiment partager les affects humains basiques, de comprendre tous ces personnages, d'orchestrer des carrefours d'histoire, des chocs comme ça de destin individuel et rendre rendre ça bouleversant, qui est inouï. Et puis il y a aussi une sensibilité climatique. C'est vraiment un des plus grands filmeurs du temps qui passe, du cycle des saisons, de la nature. Il y a une capacité d'incarnation et à construire un monde dans lequel on a vraiment, on se sent en harmonie sensible avec le film.
Dès le premier plan d'ailleurs, c'est traversé à travers les...
Et puis c'est un immense directeur d'acteurs, les deux jeunes acteurs sont formidables. Catherine Deneuve, comme toujours chez Téchiné, elle est vraiment admirable. Et même les rôles secondaires comme Jacques Nolot, qui est extrêmement amusant dans un personnage de vieux monsieur délaissé. Il y a vraiment un sens de l'humain et de la direction d'acteur qui est confondant.
Eric.
Quand Ninotchka était sortie sur l'affiche, il y avait marqué Garbo rit, c'était le slogan. Et là, il faudrait écrire Deneuve et Brune, parce que c'est le seul intérêt du film. Après, c'est fini. C'est le 8e film qu'elle tourne avec Téchiné. Ça prouve que c'est une très bonne amie. Et non, moi j'ai trouvé que c'était un sujet qui n'était pas absolument pas fait pour Téchiné. Lui, il est fait pour filmer des femmes blondes dans les rues de Biarritz en imperméable vert. Mais un truc.
Il y a toujours observé la société française. Il est très sensible aux questions politiques.
La forme est.
T'as jamais vu un truc de Téchiné en fait.
Je les ai tous vus, hélas. Et la forme est terriblement télévisuelle. C'est plus belle la charia. On se demande pourquoi ce gamin, tout d'un coup. Et en plus, j'ai eu peur quand il arrive. Je me suis dit, c'est quand même pas la mère de Neuve. Non, c'est la grand-mère. Alors là, il est coincé entre imam et mamie.
La mère est morte. Oui.
Oui, mais alors ça aussi, on ne sait pas pourquoi il est devenu musulman islamiste. Est-ce que c'est parce que sa mère est morte? Est-ce parce que Deneuve est pied noir? Est-ce que c'est parce que sa petite amie est
Mais c'est beurette? Pas le sujet.
Si, c'est le sujet.
Non, c'est pourquoi il va partir.
Et il y a quand même un problème avec cette histoire de djihad dans les films français récents, qui sont tous complètement ratés. Il faut remonter à la désintégration de Philippe Faucon pour voir un truc intéressant. Il y a des scènes complètement ratées. À un moment donné, elle se balade là dans sa cerisée. Elle voit derrière une futaie le petit-fils sur un tapis en train de prier.
Est-ce que je racontais
Elle lui dit, mais tu es religieux? Mais une grand-mère,
croyant,
mais
elle lui dit, tu es
son petit-fils, elle lui dit, espèce de crétin, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est comme ça que ça se passe. Et là, le
mais
film,
non,
moi,
m'a. Bah, pas du tout, elle est pas intrusive, elle est pleine de tact.
Non.
Ça définit absolument le personnage.
Mais non, il fait rien, le personnage. Et lui, Jérôme l'aime beaucoup parce qu'il monte à cheval formidablement bien. Mais le film,
c'est vraiment, en plus.
Ça se passe dans le sud-ouest comme d'habitude, mais ça doit être dans les Pyrénées moyen-orientales, comme il veut partir pour la Syrie, lui. Non, le film est, mais inutile, vain. Et d'ailleurs, Deneuve a donné une interview dans Le Monde où elle dit, on tourne beaucoup trop de films en France. Eh ben, elle a raison.
Sophie.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec Eric. Je trouve que tout le cinéma de Téchiné, qui est en effet un cinéma lumineux, qui est un cinéma des affects, qui est un cinéma de la bienveillance, et même s'il y a de l'âpreté, c'est un cinéma des liens
surtout
familiaux.
Surtout de la compréhension. Et de la compréhension la jeunesse, quelle qu'elle soit, d'ailleurs.
Il fait merveille parce qu'il percute ce truc qui est absolument impensable, qui est impénétrable, qui est le pourquoi de ces jeunes gens qui partent faire le djihad. Tu dis, Eric, qu'on ne comprend pas pourquoi. Mais non, parce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre, ni si on est historien, sociologue, psychologue, mais on ne peut pas comprendre.
Téchiné devrait nous montrer
par la fiction,
pourquoi,
mais c'est
son
ce qu'il
rôle.
Fait. Mais c'est qu'il fait quelque chose de bien plus
tout
beau.
Tout ce qu'il fait, c'est monter en parallèle un déjeuner aviné avec une fille qui se trémousse comme une pute, en parallèle avec un prêche à la mosquée. C'est vachement léger.
Ce qu'il fait de beaucoup plus fort, c'est que ne pouvant pas percuter et faire exploser il y a la métaphore de l'éclipse qui est très belle parce que cette éclipse, c'est vraiment un disque noir posé sur la lumière, posé sur l'intelligence et sur l'humanité. Et comme il peut pas essayer de rentrer dans la tête de ces jeunes gens, il fait quelque chose de beaucoup plus beau, il nous fait avoir peur pour eux. C'est-à-dire qu'il tisse un lien. Mais oui, parce que ces personnages, il les rend pas spécialement sympathiques, il les rend l'un est véhément, l'autre est charmante, peu importe, mais il nous fait avoir peur pour eux parce que c'est des gosses. Et donc nous, on a peur quand même de ce qui va leur arriver. Et ça, c'est
avec
ce
une
film.
Scène du mariage en pleine nature,
mais oui,
selon toutes les lois de l'islam, qui est absolument incroyable aussi.
Oui, c'est très beau. Et il y a une scène qui est absolument magnifique. Et je trouve que le film est beaucoup plus complexe qu'il y paraît, parce qu'il cite beaucoup le virtuel, l'absence, le manque sur lequel se fonde sans doute ça. Et à un moment donné, la jeune fille Lila dit à la grand-mère d'Alex, quand elle prépare le lit, « Mais moi, Alex, oui, je l'aime, j'ai pas besoin de le toucher pour l'aimer, il est dans mon cœur. » Et elle s'étonne, Catherine Deneuve, de ça. Et là, c'est formidable parce que c'est la porte ouverte à l'idolâtrie. C'est plus de l'amour quand il n'y a pas de corps. Et Téchiné, qui est un cinéaste qui sait qu'il n'y a pas d'humanité sans corps, il n'y a pas non plus de cinéma sans humanité, il montre que à quel point cette scène est importante.
Xavier.
Je suis entièrement d'accord avec Jean-Marc et avec Sophie. C'est pas vraiment un cinéaste solaire, c'est quand même quelqu'un qui est traversé aussi par une obscurité.
Il est âpre, mais
Je veux dire, Rendez-vous, Les Témoins, Le lieu du crime, il y a toujours effectivement cette alternance.
Même quand on a 17 ans, c'était un film
plutôt sombre. Absolument.
mais la nature est toujours présente et dans sa beauté. Hein,
mais il la filme aussi dans des bosquets sombres, enfin, tu vois, dans des choses quand même qui, où se tapissent des secrets. Je vois pas pourquoi André Téchiné devrait devenir un cinéaste moraliste et nous expliquer pourquoi le djihad, pourquoi l'endoctrinement. C'est un personnage, il est donné tel quel, dans l'instant T, dans le moment présent où il revient, où sa grand-mère qui croyait le connaître va le redécouvrir. Aucun des personnages n'est sacrifié, ni sur l'autel de la sociologie, ni de la politique.
Même le repenti, auquel elle fait appel.
Mais même le repenti, qui est absolument magnifique, Kamel Labroudi, qui est un acteur en plus vraiment très sensible. Puis il y a Stéphane Bach, qui est l'endoctrineur, à qui vraiment Téchiné offre aussi une étoffe romanesque, parce que il arrive constamment à donner du romanesque à des sujets qui n'en demandent pas, effectivement, qui pourraient s'arrêter à la porte de la sociologie, de l'explication, pourquoi vont-ils, pourquoi partent-ils, pourquoi sont-ils fascinés. Non, ce qui l'intéresse, c'est aussi ce que ça va provoquer dans la cellule, intime, familiale, amoureuse, affective. C'est vrai que c'est une grand-mère, donc elle a un rapport très particulier à ce petit-fils, qui n'est pas jugé. Il y a des rapports ambigus entre les trois gamins qui vont partir. Moi, je trouve le film absolument réussi, déchirant. J'ai une petite réserve un instant sur la scène de fin, mais elle se rattrape vite. Mais sinon, c'est un très grand Téchiné.
L'adieu à la nuit, André Téchiné, est-ce qu'il y a sur ce film des réactions dans le public? Non. Mais Vous êtes fou, le premier film de l'ex-journaliste Audrey Divan avec Céline Salette et Pio Marmaille. Et c'est, comme le titre la scène, une histoire de fou. Petite famille, ultra bobo, Romane est dentiste et volontiers fêtard. Comme Eric, c'est Pio Marmaille. Il est marié à Camille, Céline Salette. Ils ont deux fillettes et puis l'une des deux est soudain victime d'une terrible fièvre. On la conduit en urgence à l'hôpital et les analyses montrent qu'elle a absorbé de la cocaïne. Les parents jurent bien sûr qu'ils ne touchent pas à cette saloperie, mais devant les flics et sa propre femme, présumée coupable et clairement victime, Romane va donc finir par avouer son addiction. Il reconnaît avoir sans doute laissé un peu de poudre dans la salle de bain, un sujet de société porté par ce couple très physique que forment Céline Salette et Pio Marmaille. Eric?
C'est un film assez instructif parce qu'on apprend une chose, c'est que...
Faut pas laisser la poudre dans la...
Non seulement ça, mais que quand on en prend beaucoup, le simple contact de la peau peut en contaminer les autres. Alors il y a certaines personnes que je connais à qui je ne vais plus serrer la main parce que j'ai pas envie d'être contrôlé positif. Et non, c'est un premier film qui n'est...
Avec la peau que tu as toi...
D'éléphant, ouais. Ça aurait pu s'appeler L'amour entre les lignes. Elle veut...
Oh là là, tu rattrapes presque toutes les bêtises que tu as dites jusque-là.
Pour un premier film, il y a quelque chose. Elle raconte pas son nombril, ses petites amourettes, ses années de lycée. C'est un fait divers dont on lui a parlé, qui est effectivement complètement incroyable.
C'est une femme qui avait été victime.
Qui n'a jamais vu que son mari était schnouffé à mort depuis des années. Mais la fille s'aperçoit jamais de rien. Et elle continue à l'aimer malgré tout. Elle risque de perdre ses enfants à cause de cet imbécile. Et il y a le désir qui existe encore. Sa drogue à elle, c'est lui. Les parents ne comprennent pas pourquoi elle est toujours attachée. Et Eddie Wan fait ça avec pas mal de réalisme, quelques maladresses de temps en temps. Il y a un montage parallèle à un moment donné entre la crise de panique qu'elle a, elle court dans la rue, et lui, il danse avec ses enfants dans le salon alors qu'elle pense qu'il est en train de se droguer je ne sais où. C'est un film énergique avec Céline Salette qui pourrait jouer la locomotive dans le film Cœurs ennemis. Ce serait formidable, tellement elle est bonne. Pio Marmaille fait bien le type...
Il le fait bien,
ouais,
oui.
Physique, l'homme lâche, menteur, faible. Et... Non, il y a quelque chose. Et moi, j'attends son deuxième film avec intérêt.
Xavier,
je suis assez d'accord avec Eric Neuhoff. Ça peut arriver de temps en temps. Mais je suis comme
cette
toi.
Cette phrase est douloureuse pour toi.
Elle a du mal à passer quand même. Elle reste en gorge.
C'est à cause de la drogue.
C'est plutôt une bonne surprise, effectivement, avec un sujet qui avait tous les écueils face à lui. Enfin, c'est la course d'obstacles.
Et puis un premier film, je le rappelle.
Premier film, sujet, effectivement.
Et on ne le voit jamais sniffer, ce qui est intelligent.
Ça pourrait être le procès du père. Ça pourrait être un peu le procès de la mère qui, effectivement, aime terriblement son mari alors que tout ça, elle pourrait s'en débarrasser. Et je trouve qu'il y a une écriture, il y a une certaine délicatesse. Elle ne va jamais au cliché, elle ne va jamais à la caricature. Elle va toujours à la complexité, mais avec un art de la nuance. Il y a deux acteurs qui sont assez impressionnants, mais les second rôles comme Carole Franck sont aussi remarquables. N'oublions jamais cette grande comédienne aussi. Voilà, donc, sur une histoire dont on a très, très rapidement les tenants et les aboutissants, il y a un petit effet de suspense, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé quand même, comment est-ce que effectivement la drogue, la cocaïne a réussi à être...
Et cette histoire de peau, on ne la comprend qu'au tiers du film.
Elle pouvait juger, elle pouvait caricaturer, elle ne tombe dans aucun de ses travers. C'est un film qui a une vraie étoffe. Encore une fois, effectivement, c'est une histoire d'amour, d'amour qu'on a du mal à comprendre parce qu'on se dit mais c'est pas possible, il t'a trahi, il risque la prison, toi tu risques de perdre tes enfants, mais Céline, réveille-toi. Et en même temps, elle est tellement magnifique comme comédienne, elle est tellement délicate, subtile, complexe dans son jeu, qu'on finit au bout d'un quart d'heure, on dit mais ouais, tu as raison de l'aimer, tu as raison de... Enfin voilà, je trouve que c'est un film qui ne se trompe jamais de cible et qui réussit complètement son coup.
Ce qui est beau dans le film, c'est que c'est très réaliste et en même temps, il y a un aspect allégorique aussi dans l'histoire. Je trouve que c'est très fin, c'est écrit avec beaucoup de délicatesse, en effet, comme l'a dit Xavier, c'est une grande finesse d'écriture, finesse de jeu, parce que c'est pas simple ce qu'ils ont à jouer. Pio Marmaille, je le trouve très impressionnant. Je trouvais qu'il partait dans des mauvais trucs là, les derniers films, et à partir du Salvadori en liberté où il est formidable, je me suis rendu compte qu'il avait un spectre de jeu incroyable. Et là, il est dans un registre de gravité. Moi, vu le film, je savais pas du tout ce que c'était. Je croyais que c'était une comédie, et je me suis dit on va avoir une comédie. Et puis finalement,
Le titre est très mauvais. Hein,
le titre très pas très bon, ça c'est vrai.
Mais vous êtes
fou. Vraiment, il a un spectre de jeu assez formidable. Céline Salette, vous l'avez tous dit, c'est vrai qu'elle est très fine, mais le film est fin et a une façon très originale de traiter l'addiction et l'amour.
Jean-Marc.
Oui, c'est vraiment très intelligent et très bien raconté. Au départ, on pense que le sujet, ça va être l'addiction et la dissimulation du personnage masculin. Or, très vite, ça se déporte et la dissimulation est du côté du personnage de Céline Salette, qui doit dissimuler qu'elle l'aime encore, qu'elle ne le peut pas se résoudre à le quitter, alors même que ça va contre son intérêt social, contre le jugement de son environnement, qu'elle va peut-être perdre ses enfants définitivement. Mais le sujet, ça devient vraiment l'amour, et un amour irrationnel et qui met en danger la personne qui l'éprouve. Et là, c'est très beau. Et il y a un troisième mouvement qu'on peut pas raconter, où alors qu'on pensait qu'on s'acheminait vers de la réconciliation, ça va à nouveau basculer. Je trouve le film vraiment remarquable d'intelligence.
Mais vous êtes fou de Audrey Divan. Des réactions sur ce film, non. Victor et Célia, le 17e film de Pierre Jolivet, qui poursuit ici le principe qui lui a d'ailleurs plutôt réussi autrefois, de Ma petite entreprise. Et c'est avec une bande de trentenaires, Arthur Dupont, Alice Belaïdi, Bérangère Krief et le chanteur Benabar, reconverti ici en comptable vapoteur et sourcilleux. Arthur Dupont, c'est donc Victor, un coiffeur qui rêve de créer son propre salon avec un copain. Mais le copain se tue au début du film dans un accident de moto. Victor fait alors appel à une de ses ex, qui est Célia, jouée par Alice Belaïdi, avec laquelle il va enfin, dans des conditions tout à fait ubuesques, il faut dire, pouvoir créer sa petite entreprise de Figaro, une comédie qui se veut ouvertement et sociale et romantique et qui est quasiment aujourd'hui un court-métrage, 1h31. Jean-Marc ?
Je trouve le film à la fois anodin mais plutôt sympathique. Il se repose beaucoup sur son charme et le charme de ses interprètes. Et malgré tout, quelque chose fonctionne, et même si c'est très très anecdotique, je trouve la comédie romantique assez menée de façon allègre, et l'alchimie des deux interprètes ensemble fait qu'on suit ça vraiment très agréablement, alors même que la teneur du film me semble toujours un peu anecdotique.
Xavier.
Je suis assez d'accord avec Jean-Marc. C'est un film qui a un charme fou.
Qui sort de chez le coiffeur, d'ailleurs.
Avec beaucoup de plaisir. Oui, je ne sais pas pourquoi, avec les si peu de cheveux que j'ai, je vais encore chez le coiffeur perdre 10 euros. C'est idiot, mais enfin bon. On essaie de croire.
Tu vas où?
Ah, mais moi, je suis dans le 18e. Tu sais, payer plus, ce serait idiot.
Mais c'est beaucoup trop cher pour ce qu'il fait.
C'est pour ça que tu fais des économies là-dessus, toi. Alors, mais Jean-Marc a raison, en même temps il y a un charme fou, il y a une comédie romantique. Là où le film m'intéresse de temps en temps, c'est que plutôt que de nous montrer, alors évidemment le chemin va être très très long jusqu'à l'ouverture possible de ce salon de coiffure dont il rêve, ça pourrait être la valorisation de l'effort, du travail, la persévérance. C'est uniquement la roublardise qui va leur permettre d'arriver, ou pas d'ailleurs, à leur fin. Quitte à éventuellement essayer de maquer le banquier qui leur refuse un prêt avec le jeune coiffeur gay qui pourrait être de son goût. Donc de temps en temps, quand la roublardise prend le pas sur le côté très sarkozyste que le film pourrait raconter, oui, grâce à ses efforts, on va y arriver, tout ça.
Faut y penser à Sarkozy.
Éminemment sympathique. Mais le problème, c'est qu'il est un peu tiède en termes de mise en scène. Alors c'est rehaussé par les comédiens qui sont tous formidables.
Benabar est pas mal d'ailleurs.
Mais
Benabar,
il sait croquer les personnages, il sait croquer une situation. Le film n'est jamais tout à fait là où on l'attend. C'est dommage que la mise en scène n'appuie pas un peu plus sur les ressorts et ne soit pas plus aiguisée.
Eric,
c'est ma toute petite entreprise, hein, parce que vraiment là, c'est le pauvre Jolivet. Il veut faire jeune et sympa, mais j'ai vu sa carte d'identité, il l'est pas. Hein. Et ça se voit, c'est paresseux, c'est téléphoné. Il y a une scène où l'ex, en pleine nuit, lui téléphone, et évidemment, ça réveille son compagnon. Il lui dit qui c'est. c'est ma grand-mère, mais c'est pas possible de tourner en 2010.
Bah,
mais
non, si, non. Elle veut
il le croit en plus.
Et
tout est comme ça. Il monte ça, il trouve une espèce de patron idiot qui leur donne de l'argent parce qu'il pense que la boutique c'est une start-up. Le banquier homosexuel, mais c'est honteux ce qu'il fait avec ce personnage. Ils se font passer. Lui, il dit qu'il était paxé avec le gars qui est mort. Et tout, elle,
mais c'est la roublardie, c'est ça qui est bien.
Mais non, c'est ta connerie.
Mais non.
Non, non, c'est pathétique. Toutes les répliques sont téléphonées. C'est le genre de film où quelqu'un dit quelque chose et son partenaire répète ça de façon interrogative. Tout le temps, il y a ça. Non, moi, j'ai failli partir. J'ai voulu voir comment ça finissait. Et ils auraient dû couper, hein, là. Et pas seulement les cheveux, hein.
Sophie.
Ça prend d'arriver là.
Ouais. Je suis contente parce que je suis pas du tout d'accord avec Eric. Je trouve
que c'est banal.
Non, mais je trouve que
c'est rassurant surtout.
Oui, c'est très rassurant. Non, mais franchement,
je plains les gens qui vont y aller. Hein.
Vous avez dit tous les deux, Jean-Marc et Xavier, que le film est du charme, c'est déjà pas mal. Je trouve qu'il est non seulement très charmant, mais il est super bien écrit.
Écrit en lettres
bâton. C'est rare de trouver une comédie aussi drôle qui fasse à ce point avec le réel. C'est rare.
Plaisante.
Qui fait avec
tout,
le réel. Laisse-moi
finir.
Invraisemblable. C'est rare. Mais je m'en fous que ce soit invraisemblable ou pas invraisemblable. Et le canet, il est vraisemblable peut-être. Non, bah, tu vois, bon, alors chacun a son rapport au vraisemblable.
Oui.
Là, moi, je suis parfaitement vraisemblable. Les démarches administratives, avec ce qu'il y a de plus assommant dans la société, il arrive à faire un truc super drôle. Et en effet, comme l'a dit Xavier, on n'est pas dans une ascension, une trajectoire glorieuse vers le succès. On est dans la réitération de l'échec. Et cette course d'obstacles qui retombe toujours sur l'échec, elle est géniale parce que du coup, c'est du pur désir. On est toujours dans le désir.
Il n'y a pas que de l'échec, hein.
Non, mais enfin, il y a beaucoup d'obstacles. Et du coup, le désir est toujours vierge. Et on repart à zéro avec un désir vierge. Et du coup, la romance, elle colle parfaitement.
Mais le désir est toujours vierge.
À la chronique sociale. Et ça, je trouve que c'est très fort.
Sophie Avon, contemporain.
Et je trouve que la partition, la façon dont ils jouent tous les deux, Arthur Dupont et Alice
Belaïdi,
est très gracieuse et ils s'en sortent très bien de cette partition. Non, je trouve que le film est vraiment virtuose.
Victor et Célia, Pierre Jolivet. Et très rapidement, on termine par un film, j'aurais aimé qu'on l'évoque davantage, c'est Tremblement, du réalisateur guatémaltèque Jairo Bustamante, à qui on doit Ixanul, avec Juan Pablo Olislager, je ne sais pas si on dit Olislager ou voilà, dans le rôle de Pablo, qui est un cadre de 40 ans, tout à fait comme il faut, catholique pratiquant, marié, père de deux enfants, qui habite une très belle maison dans un faubourg chic de Guatemala. Et puis le film s'ouvre par une scène qui est très dure. Pablo est attendu chez lui par toute sa famille, qui voilà, il lui ordonne de rentrer dans le droit chemin, car Pablo a une seconde vie. Il est gay et fou amoureux de Francisco, et au prétexte, je cite là, que Dieu aime les pécheurs mais déteste le péché, sa famille très évangéliste va s'employer à soigner le malade, jusqu'à une scène finale qu'on peut pas raconter, qui est absolument sidérante. Tout ce qui a raté, selon moi en tout cas, il y a un mois je crois, Joe Edgerton dans l'adaptation des mémoires de Conley, je trouve que Bustamante l'a réussi. Xavier?
Ah ben, on le recommande. C'est un film qui commence là où tous les autres mêmes films de cette même thématique terminent. C'est-à-dire, généralement, c'est la famille,
absolument,
l'auteur, il découvre qu'il est gay, il finit par s'affranchir de tout ça et aller retrouver les bras du garçon qu'il aime. Là, il les a retrouvés, on lui demande de revenir, il y a la culpabilité. C'est un film qui ne juge personne, même si au départ, on se dit c'est un peu sommaire, la famille est très austère et les gays sont très joyeux, très extravertis. Mais je trouve qu'il y a de la nuance, il y a de la manipulation, il y a du doute, il y a de l'anxiété, il y a de l'amour pour ses enfants, il y a de l'amour aussi pour sa femme. Et je trouve que le film, sur comme ça un postulat qui aurait pu être très rigide, arrive à être dans la complexité, dans la nuance, dans l'intelligence, et c'est remarquablement mis en scène, parce qu'il n'y a pas que le scénario justement qui va fouiller les doutes du personnage et sa complexité, il y a aussi cette mise en scène qui est étrange, qui est vaporeuse, qui est un peu ouatée, qui est un tout petit peu lourde comme ça, comme une chape. C'est un très très beau film.
Eric?
Ah, c'est le meilleur film guatémaltèque que j'ai vu, hein. D'ailleurs c'est le seul. Non, non, c'est un film épatant. On voit
pourquoi un doute, tu n'écris pas ces très mauvais jeux de mots. Ils te viennent spontanément, enfin.
J'y ai pensé en voyant ça. Non, non, le film est vraiment épatant, complètement réussi. On voit un homme qui pleure et le film va nous expliquer les raisons de ses larmes. Et c'est un film où tout le monde est perdant. La femme, le mari, le compagnon. Et on voit pourquoi. Mmh. Et c'est vraiment la réponse sud-américaine au très très mauvais film dont tu parlais tout à l'heure, américain. Xavier a raison, avec une mise en scène orageuse, sombre. Il y a un côté huis clos, presque cauchemardesque.
Très étouffant.
Et
ouais,
cet acteur, qui est presque le sosie aussi de Mel Gibson, est très étonnant. Et c'est un film qui vaut tous les romans qu'on peut lire en ce moment.
Jean-Marc.
Moi, je suis moins enthousiaste. Je trouve effectivement le film oppressant, mais c'est presque ce qui me dérange, que le film est presque un peu trop fait du point de vue d'oppression. Et même si, évidemment, on est censé s'identifier à la victime, je trouve que cette mise en scène qui redouble l'étouffement que subit le personnage, je trouve ça trop tautologique et assez inopérant. Et j'aurais préféré que le film donne un peu de chance à l'émancipation et que la façon dont il fait... le spectacle de l'acharnement dont est victime le personnage finit à un moment donné par me déranger.
Eh bien, c'est Tremblement que je vous conseille également de Jairo Bustamante. Le temps est venu des conseils. On va commencer avec Sophie.
Je voudrais recommander très très chaleureusement Monrovia Indiana, qui est le grand documentaire de Frédéric Weissmann, qui est absolument formidable sur ce village de l'Indiana qui a voté à 76% pour Trump. Le film est formidable. Alors là, il fait comme d'habitude, hein, il pose sa caméra, il dit rien et il laisse voir. Et c'est très curieux parce que ces gens qui a priori ne sont pas passionnants, sont des gens très simples, les fameux oubliés de l'Amérique, eh bien le film est fascinant, mais littéralement fascinant. Et un deuxième conseil rapide, c'est Dieu existe, il s'appelle Petrunia, d'une jeune réalisatrice de Macédoine qui s'appelle Teodna Stuttgart Monteveska. C'est son cinquième long métrage et je le trouve à la fois iconoclaste, féministe et très beau.
Le conseil de Xavier.
Très rapidement, deux docs absolument formidables, en plus du Wiseman, Coming Out de Denis Parot, qui raconte et qui colle, j'allais dire, des coming out, donc des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont assumé leur homosexualité sur Internet, face à la caméra, sauf qu'ils se sont mis en scène pour essayer justement que ce soit un moment important dans leur vie. Et la manière dont Denis Parot a collé, a monté tout cela est absolument bouleversant, vraiment, à la fois dans la solitude et parfois dans la solidarité. Et puis moi, j'aime beaucoup le Amos Gita et Un tramway à Jérusalem, qui n'est pas vraiment un doc, il a posé ses caméras dans un tramway, donc qui traverse Jérusalem, et il a mis en scène, il y a Pippo Del Bono, il y a Mathieu Amalric, des situations qui sont à la fois grotesques et absurdes, mais qui disent énormément, sans être directement frontal sur Israël et sur Jérusalem aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un film extrêmement intéressant. Donc Un tramway à Jérusalem, Amos Gita et Coming Out de Denis Parot.
Mon conseil, c'est un film qui s'appelle Duel, mais deux L-E-S, d'Olivier Pincé de Passe, avec deux grandes comédiennes belges qui s'appellent Verle Bettens et Anne Cosens, qui habitent un même pavillon de la banlieue bruxelloise des années 60. Et la mort d'un des deux enfants va provoquer une sorte de haine entre ces femmes. Et à ce moment-là, le film devient un thriller quasiment hitchcockien où vont s'affronter deux névroses, la phobie et l'hystérie. C'est très glaçant, c'est très belge et ça s'appelle Duel, le conseil d'Éric.
Bizarrement, White de Bret Easton Ellis, dont vous allez parler, je crois, parce qu'il est beaucoup question de cinéma et on s'aperçoit que Ellis aurait fait un fabuleux critique. Il a été formé par les films, il raconte son enfance à travers tous les films qu'il voyait. C'est le genre de type qui, à 10 ans, lisait chaque semaine religieusement Pauline Kael dans le New Yorker. À 13 ans, il a vu L'Exorciste, ses parents lui laissaient voir absolument tout ce qu'il voulait, des films d'horreur, etc. Il parle de Charlie Sheen, il fait le portrait d'Hollywood aujourd'hui. C'est fabuleusement écrit et il est marrant comme tout. À un moment donné, il parle d'amour. Là. Vous vous souvenez le film de Haneke sur les deux vieux là. Et il dit... C'est comme si la maison du lac avait été dirigée par Adolf Hitler.
Il en avait déjà fait un tweet à l'époque. Hein. Ah ouais, c'est un peu, il recycle quand même.
Oh, mais quand tu recycles des trucs comme ça,
c'est vrai. Ouais.
Enfin, on en parlera longtemps la dimanche prochain. C'est donc le livre de Bret Easton Ellis qui s'appelle White et qui est chez Robert Laffont. Le conseil pour finir
moi,
de Jean-Marc.
Un film 90 de l'acteur Jonah Hill qu'on avait vu dans les comédies de Judas Apatow et qui donc fait sa première réalisation. Et c'est la chronique d'une adolescente, l'histoire d'un garçon de 14 ans qui va peu à peu échapper aux joues extrêmement violentes de son grand frère qui le maltraite, en découvrant une bande de potes qui l'initient au skate. Et c'est à la fois d'une très grande drôlerie, mais nimbée de mélancolie. C'est vraiment un très très joli film sur l'adolescence.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume France Inter.fr. Merci beaucoup Sophie Avon, Xavier Lewerper, Éric Neuf et Jean-Marc Lalanne pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Ce soir au théâtre de l'Alliance française, il y avait à la technique, et je les remercie, Bernard Laniel, Jean-Benoît Tétu, Charles Bouticourt. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Vous notez s'il vous plaît que le prochain enregistrement du Masque, eh bien il aura lieu le jeudi 16 mai au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris pour une seule émission consacrée au cinéma. Dans une semaine, on parle de livres et de Bret Easton Ellis. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.